Alors, ou bien c'est la rigueur dans toute sa rigueur, ou bien alors c'est rien du tout. C'est rien du tout, cette générosité. C'est Akadosh Baruch Hu Vatran. Il est, comment on dit Vatran ? Il est. Et il laisse tomber. Il. Comment on dit Vatran ? Concession. Vatran, Vater. Comme on dit au grand garçon par rapport à son petit frère. T'es Vater. Laisse tomber. Alors, où c'est ça ? Où c'est ça ? Dit Yona au début du livre de Yona. Peut-être même à la fin, d'ailleurs. Peut-être pas. À la fin, on ne sait pas. En tout cas, Yona se dit, ou bien c'est le din, dans toute sa splendeur de din, de rigueur, ou bien, alors, c'est rien. C'est Vatran. Let din ve let dayan. Il n'y a pas de juge et il n'y a pas de rigueur. Il n'y a rien. Gamar, non ? S'il n'y a rien, il n'y a rien. Moi, je vais jusqu'au bout, dans ce combat-là. Et à chaque fois, Dieu le met dans une situation où il doit expérimenter quoi ? La miséricorde. Il veut se suicider. Un poisson. Oh, encore vivre. Il veut... Bon, alors le poisson le vomit, alors après il va pour... Il y a automate, il ne peut rien faire. On l'envoie, il y va. Et après, il va s'asseoir là-bas. Et on lui dit, alors il va s'asseoir, et puis l'arbre de la souka se met à sécher, à se dessécher. Alors vous remarquerez combien de fois il va dire Tov moti mechayai, meilleur est ma mort que ma vie, à la fin dans le dernier chapitre, chapitre 4. Hein, par deux fois, par trois fois, il va dire prends ma personne, prends ma vie, car meilleur est ma mort que ma vie. Ça on sait, on a déjà entendu Yona depuis le début son discours. Adiyoti aladmati, depuis que je suis sur ma terre, c'est ma vertu. Meilleure est la mort que la vie, forcément, quand on est Yona, Ben Amitai. Il n'y a pas le choix. Ou bien c'est Yitzhak avant, ou bien c'est Yitzhak après. Mais pour l'instant, c'est Yitzhak avant. Avant le sacrifice, tel qu'on l'avait expliqué tout à l'heure. Alors il y a, d'une part, la possibilité de Midat Hadin, et d'autre part, rien du tout. Alors moi, je choisis Midat Hadin jusqu'au bout. Oui, mais c'est pas tout à fait ça. Car lorsque Dieu va associer la vertu de miséricorde à la vertu de rigueur au moment de la création, lorsqu'il a vu que sur la vertu de rigueur, le monde ne peut pas subsister, c'est la mort, il a associé la vertu de miséricorde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a annulé le din, il a annulé la rigueur ? C'est ce que pense Yona. Ma pitom, le grand limout du livre de Yona que nous lisons l'après-midi, c'est-à-dire à l'essence même du jour de Yom Kippourim, c'est que la miséricorde associée à la rigueur, c'est a priori, c'est pas a posteriori, c'est a priori. Le monde doit subsister, le monde doit vivre, l'homme doit être créé. Alors on jette la vérité par terre et on crée l'homme. Vous comprenez ce midrash ? Alors, on va associer la Midat Arachamim à la Midat Adin, le Yom Asant Hashem Elohim. Ça veut dire qu'on annule le Din, le projet est toujours aussi rigoureux, il n'y a pas marqué. On n'a pas effacé Elohim, on a associé Hashem. Ça fait Hashem Elohim. On n'a pas effacé Elohim. Elohim reste. C'est cela le projet rigoureux du Créateur pour son monde. Mais on lui donne le temps de le réaliser. Il y en a un problème avec le temps. Yona est un personnage qui ne vit pas dans le temps. La meilleure preuve, c'est que contrairement à presque tous les Névim, presque tous les prophètes, on ne dit pas dans quel temps vit Yona. Hein? Pourtant, on sait par ailleurs, dans les Melachim, il y a écrit que Yona a vécu à telle époque. Ici, il n'y a pas marqué. Tous les prophètes commencent par « à l'époque de tel roi et de tel... etc. » à prophétiser un tel. Yona ne vit pas dans le temps. Yona est intemporel. Yona ne connaît pas le temps, car le temps, c'est Racham. Bonne teshuva.
Après l'introduction concise du Rav Ashkenazi, j'ai donc été prié d'analyser avec vous le chapitre 30 du livre de Devarim. Pourquoi chapitre 30 ? Eh bien, parce que, d'après la numérotation des chapitres de l'archevêque Stephen Langdon, ça tombe chapitre 30. Mais il y a une autre raison, à savoir que, indépendamment du fait que c'est précisément la parcha de la semaine, dite péricope hebdomadaire, c'est également un texte clé à propos de la tshuva qui peut nous permettre de répondre aux questions suivantes. Première question. Est-ce que la rédemption finale du peuple juif, elle est conditionnée moralement par notre comportement? Est-ce que c'est un déterminisme et cette geoula arrivera quoi qu'il en soit? Ou bien est-ce qu'elle dépend de notre effort? Comme vous savez, il y a là deux thèses qui s'affrontent jusqu'à nos jours. La première thèse qui présente une rédemption inconditionnelle place le primat sur la volonté divine. Nous avons foi en Dieu et nous savons qu'en fin de compte, il amènera des jours meilleurs. Et l'opinion opposée insiste sur la responsabilité humaine, sur l'effort humain, sur la liberté. C'est vous qui êtes responsable de ce qui arrivera. Doit-il y avoir, d'après eux, tant que le peuple juif ne s'amendera pas du point de vue moral, spirituel, religieux, eh bien, rien ne bougera, rien ne pourra être consommé dans un sens messianique quelconque. Eh bien, lorsque nous lisons ce chapitre, nous arrivons rapidement à la conclusion, très simple, que le problème est beaucoup plus compliqué que n'importe laquelle de ces deux formulations. Et c'est pourquoi nous allons nous permettre de lire ces dix versets. Eh bien, Vaya ki yavru alecha kol hadvarim ha'ele, lorsque tous ces événements précédemment décrits t'atteindront, des événements tragiques, Abraha vaklala, les réussites, les désordres, Asher natat ilefanecha, que je place devant toi, Vashivota el levafra, tu prendras les choses à cœur, Bechol agoyim, Asher idichacha, au sein de toutes les nations, Asher, où Dieu t'a dispersé, Asher melokecha sham. Veshavta al Asher melokecha, et tu reviendras à Dieu, Veshamata gokolo, et tu écouteras sa voix. Selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, à ta ou vanecha, toi et tes enfants, de tout ton cœur, de toute ton âme, et alors, c'est un premier mouvement. Un mouvement de haut en bas, de bas en haut. C'est nous qui prenons les choses à cœur et qui effectuons un mouvement de retour vers Dieu. Chapitre, verset 3. Veshav Hashem Elokecha et Shvitra. Et alors, Dieu te ramènera ton retour. Veshav. Et il reviendra, ou tu reviendras. Il te reviendra. Vekibetzra. Il te rassemblera, Mikol Amim, de toutes les nations. Sherefitzra, Shem Elokecha Shama. Où Dieu t'a dispersé. Im Yenidachacha Bikse Hashamaim. Fus ta dispersion aux confins du ciel. Misham Ikavetzra, de là-bas il te rassemblera. Hashem Elokecha, Dieu ton Dieu. Misham Ikarecha, et de là-bas il te prendra. Veviara Hashem Elokecha, et Dieu t'amènera. Et la Haaretz, au pays. Hashem Yarchu Avotecha, donc tes ancêtres ont pris possession. Verishta, et tu en prendras possession. Vetifra, et il te fera du bien. Virbecha Mevotecha, il te multipliera plus que tes pères. Ou malachem et le cœur et le vafra, et Dieu circoncira ton cœur, et le cœur de ta génération. La va et tachem et le cœur, afin d'aimer Dieu ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Et Dieu enverra toutes ces malédictions précédemment mentionnées, qui sont notre sort dans l'exil, eh bien, il les enverra à l'oivercha, sur tes ennemis, malsonercha, Asher Adafoucha, qui donc poursuit vie. Vata tachouv, et alors, tu te repentiras. Oui, mais on l'a déjà dit avant, ça ne suffit rien. Veshamat avekol Hashem, et tu écouteras la voix de Dieu. Vasita et kol mitzvatav, et tu accompliras toutes ces mitzvot. Asher Adafoucha, mitzvafra yom, que je t'ordonne aujourd'hui. Et alors, verset 9, à nouveau, quelque chose qui vient de haut en bas. Votirera Hashem Elokecha, Dieu te fera réussir, dans toute l'œuvre de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes animaux, le fruit de ta terre, le tova en bien, qui yashuv Hashem la sousalecha, Dieu recommencera à se réjouir envers toi, le tova en bien, kasher sa salavotecha, comme il s'est réjoui envers tes ancêtres. Ki tishma bekol Hashem elokecha, car tu écouteras la voix de Dieu, lishma mitzvotav, écouter ses commandements, ses préceptes, taktuva, sefer Torah, qui sont écrits dans cette Torah, qui t'achouve et l'Hachem, car tu reviendras vers Dieu. Mais ça, on l'a déjà dit, ça fait rien. De tout ton cœur ou de tout ton âme. Ce texte, sans approfondissement, on voit qu'il est profondément répétitif. Ce qui, évidemment, nos amis de la critique biblique ont expliqué sur le champ. C'est le célèbre rédacteur qui était un génial imbécile, qui a eu sous les mains toutes sortes de documents parallèles. Et quand on dit qu'il n'arrivait pas à décider lequel qui était le mieux, il les a tous mis. Ça fait rien. Puis surtout que pour avoir un doctorat, c'est au poids. Alors, il a répété plusieurs fois la même chose. C'était un homme génial. Parce que, enfin, pas génial comme à notre époque, mais pour cette époque où les gens, je sais pas quoi, grimpaient sur les arbres et allumaient du feu avec des cailloux, c'était pas mal. Mais c'était un imbécile, parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il répétait trois fois la même chose. Comment expliquer qu'un imbécile peut être génial ou un génial imbécile? C'est une énigme. Pas tout est explicable. Mais enfin, malgré ces remarques pertinentes et aussi impertinentes, la vérité est que on avait déjà pensé au problème avant eux. Nous aussi, on est des imbéciles, mais pas à ce point. On s'est rendu compte qu'il y avait là des répétitions et des désordres. Et il y a aussi une autre explication du désordre. C'était le génial imbécile. Il avait une secrétaire irresponsable, comme tous les génies imbéciles. Alors elle a ouvert la fenêtre, puis tous les petits papiers, ils ont volé. Puis après, elle a eu honte d'avouer, elle aurait les arrangé un peu comme ça, dans tout l'ordre. Et voilà, c'est pourquoi il y a ce sublime galimatia sacré. Vous avez raison de rire, parce que c'est vraiment une des matières les plus précieuses pour Pourim. Ce qu'il y a de triste, c'est que des juifs ont également été entraînés, des juifs vides ont été entraînés par cette façon de penser, par des goyim vides. Voilà. C'est d'ailleurs, comme l'a dit le rabbin Ashkenazi, la critique biblique, c'est une synthèse d'ignorance et d'antisémitisme. Parce qu'il faut être aussi antisémite pour croire que nous sommes des mystificateurs à un tel point. Donc, c'est vrai qu'il y a la répétition. C'est vrai que le motif de la tshuva apparaît trois fois. Dans les versets 1-2 et dans le verset 8 et dans le verset 10. Et il est également vrai que le motif de la rédemption du peuple juif à savoir l'accomplissement des prophéties messianiques d'un avenir meilleur, arrive également en également trois fois. Verset 3, première tranche, verset 3, 4, 5. Ah, j'avais oublié, le verset 6, c'est également un verset de Teshuva, la circoncision du cœur et l'amour de Dieu. Donc il y a quatre tranches de Teshuva. 1, 2, 1, 2, 6, 8, 10. Et il y a trois tranches rédemptionnelles, à savoir 3, 4, 5, 7 et 9. Nous en conclusion, concluons rapidement que ces deux phénomènes sont des processus qui arrivent graduellement, hadraga. Ce ne sont pas des bouleversements brutaux de l'histoire. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas en mesure de dompter la soudaineté. Il est bien évident que Dieu peut précipiter des événements. Et Dieu peut aussi les faire arriver graduellement. Notre monde, en tout cas, c'est un monde du graduel. C'est un monde où l'histoire se forge petit à petit. Effectivement, chaque homme qui est heurté par la disharmonie du monde pose la question suivante. Pourquoi Dieu n'a pas créé un monde parfait? Pourquoi ce Dieu qui est bon et qui nous affirme le premier jour, Kitov, c'est bon, deuxième jour, Tiktov, troisième jour, Tov, Mehom, si c'est tellement Tov Mehom, pourquoi il y a des prisons, pourquoi il y a des cimetières et pourquoi il y a des hôpitaux? C'est donc un monde en devenir. Le bien et le bon, que ce soit le bien moral ou le bien cosmique, est en devenir et apparaît graduellement. Mais est-ce que Dieu n'aurait pas pu créer un monde parfait, du premier jet, sans douleur et sans instinct du mal? Effectivement, il aurait pu. C'est la question à laquelle répondent nos sages dans le cinquième chapitre du traité des Avot, des principes. Aolam nivra ba'asara ma'amarot. Le monde a été créé en 10 étapes. Valo b'ma'amar echad yachol ibarot. Mais Dieu aurait pu le créer en une seule parole, en une seule application sur un bouton d'électricité, faire apparaître un monde complet et parfait. C'est vrai. Mais notre monde n'est pas le résultat de la possibilité divine de créer un monde en un seul coup, mais il est le résultat de la possibilité divine de créer un monde par étapes. Et ce pourquoi, disent nos sages, l'iten sachar tov la tzadikim, afin de donner une récompense au juste. Un monde parfait, ou plus que parfait, c'est un monde où il n'y a pas de place pour l'effort humain, pour la responsabilité humaine. C'est un monde où il n'y a pas de place pour le mérite. Un monde qui apparaît graduellement. Qui apparaît graduellement en nous associant à cette œuvre, c'est un monde qui nous permet d'avoir du mérite. C'est pourquoi non seulement le monde a été créé graduellement, mais il continue à apparaître. Non pas par saut et non pas par bond, mais doucement. Comme dit le verset, comme les eaux du Shiloah qui frayent leur voie lentement. Kene a Shiloah haolchim leat. Et c'est pourquoi la Teshuvah la résurrection spirituelle du peuple juif, elle ne se fait pas soudainement, mais par étapes. Et également, la résurrection nationale, politique, elle se fait également par étapes. C'est la première remarque. Et la deuxième remarque est que ces étapes, elles sont enchâssées, croisées. Ce sont deux phénomènes incrustés l'un dans l'autre. C'est pourquoi des présentations comme quoi tout d'abord le peuple juif dans sa totalité deviendra un peuple d'hommes justes et bons et parfaits, et alors viendra la réalisation des prophéties messianiques. Eh bien, c'est une image naïve, trop simple des choses. Le contraire aussi est trop simple. Que tout à coup, Dieu nous prendra en miséricorde et nous donnera un pays au sommet de la perfection. Et alors, nous accomplirons un mouvement de l'âme. Ça aussi, c'est une image d'Épinal. Les phénomènes sont beaucoup plus complexes. Ils sont insérés l'un dans l'autre. Et maintenant, nous allons donc analyser ce dévoilement ternaire, tout d'abord, de la rédemption du peuple juif. Eh bien, versets 3 et 4, et même le début du verset 5, c'est le retour en Israël. Shivat Sion. C'est très intéressant ce que dit Maïmonide à ce sujet. Maïmonide dit que le Messie est mentionné explicitement dans la Torah. Ce qui est étonnant, car le thème de Messie et le terme de Messie n'apparaît pas. C'est vrai qu'il apparaît dans le prophète, chez les prophètes. Par exemple, le chapitre 11 disait « C'est le rejeton qui poussera de la souche de Jessé. » Mais dans la Torah, ça n'apparaît pas. Maïmonide dit « Erreur ». Celui qui n'a pas foi, qui n'a pas confiance en le Messie, c'est pas seulement les écrits prophétiques qui bafouent, mais également la Torah, car la Torah en parle explicitement. Comme il est écrit, Veshav Hashem, Veshav Ekibetzra, Dieu te ramènera en Eretz Israël. Ici c'est écrit, ici, là, il est écrit ici. Mais non, ici. C'est si vous voyez, dit Maïmonide, le début du retour du peuple juif en Israël, ces événements-là ont une signification messianique. C'est pas seulement un transfert de population, sujet à étude pour sociologues. C'est un phénomène messianique. C'est le début du messianisme. Le retour en Israël. Donc Dieu te rassemble. Et te ramène en cette terre. Et tu en prends possession. Qu'est-ce que ça veut dire prendre possession? Est-ce que c'est dans le sens, comment dire, du travail humain? Nous cultivons cette terre, nous la sauvons du désert, ou bien dans le sens d'une souveraineté nationale, vraisemblablement les deux sens. C'est ça que ça veut dire prendre possession d'une terre. Eh bien, tu en prendras possession. C'est intéressant ce qu'il y a dans le traité Sanhedrin 98, recto, à propos du Ketz Megoulé, à savoir le signe obvi de la fin des temps. Vous savez que des signes mystiques de la fin des temps, nous en avons peur. Ça fait une semaine, quelqu'un me dit, il y a un très grand rabbin, il m'a dit que le Messie viendra en 5760. Non, 5750. 5750. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai dit, vous savez, s'il vient en 5750, je serai très heureux. S'il vient après 5750, j'accepterai quand même. Et même s'il vient avant 5750, ça ira. Le Talmud nous avertit dans ce même traité Sanhédrin, 97 verso. Bevakasha, veuillez cesser vos calculs eschatologiques. Ça sert à rien, ça ne fait que provoquer des désordres et des malheurs au peuple juif. Ça ne veut pas dire que ces calculs sont sans signification, mais ça veut dire que les répandre, c'est l'erreur éducative numéro un. Donc, sans calcul. Et puis tout à coup, on tourne la page. On ne la tourne pas, on traverse le Rubicon du milieu des deux pages. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un signe oblique de la fin des temps, Nougoulet. Autrement dit, maintenant, nous sommes sortis du mysticisme profond. Nous avons émergé des nuages et nous sommes dans la plaine ensoleillée et claire. Et voilà ce signe. C'est un verset d'Ézéchiel, chapitre 36. Vatem, et vous, Hari Israël, montagne d'Israël, un peu remtidnou, donnez vos branches, au pire remtissou, et portez vos fruits, l'ami Israël, à mon peuple d'Israël, qui kikir vous la voix car ils arrivent. Il y a donc écrit dans ce verset deux choses. À la fin du verset, ils arrivent. Les gens commencent à arriver. Ils en ont assez. Du bassin parisien et du bassin pyrénéen et du Pau. Ils reviennent. Et puis deuxièmement, ces gens-là qui viennent, ce ne sont pas des fumistes, ce ne sont pas des gens qui vivent de la charité, ce sont des gens qui font pousser des arbres et qui font porter des fruits à la terre. En hébreu, ça s'appelle Shivat Sion, le retour en Israël, Veishuv Haaretz. La construction du pays. Ce chapitre 36 d'Ézéchiel, c'est un chapitre très arborisé. Ainsi parle le prophète Ézéchiel. Elle y arrive aux montagnes. Vela Gvaot et aux vallées. Vela Gaiot et aux vallons. Et aux arbres. Il parle aux arbres. C'est un prophète naturiste. Il s'intéresse aux arbres, il s'intéresse aux vallées. Puis il parle aux vallées. Et puis, il leur dit des choses. Mais à quoi ça rime? Un prophète, il doit parler de judaïsme. Pas de vallées, ni d'arbres. C'est un prophète, surtout un prophète comme Ézéchiel, c'est quelqu'un qui a des visions. Alors il faut qu'il nous raconte des visions, voilà, voilà. Nous, on a soif de vision, voilà. On a une soif maladive de vision, du pain et des visions. Des arbres et des vallons. J'ai pas besoin d'un prophète pour ça. Et une fois, j'ai lu un livre, comment il s'appelle? William James. L'expérience religieuse, comment ça? Alors, il y a un chapitre, il cite des visions mystiques. Alors j'ai essayé de comprendre. Impossible de comprendre. J'ai vu une grande lumière, puis j'ai vu une petite lumière dans la grande lumière dans la petite lumière, puis tout à coup ça s'enroulait, puis tout à coup ça se déroulait, puis ça courait dans tous les côtés. Des pages et des pages et des pages. Mais c'est du chinois tout ça. Moi j'ai des difficultés à lire du chinois sans voyelle. Alors, un prophète. C'est un type qui amène des visions. Si vous parlez d'arbres, ben moi aussi, moi, je travaille la terre, moi aussi je vois des arbres. Vous n'avez pas compris que le prophète, la différence entre notre vision et la vision prophétique n'est pas quantitative, mais qualitative. Il voit exactement la même chose que nous, mais il le voit avec une profondeur plus grande. Il a un œil au rayon X. Et nous aussi, nous voyons que des Juifs retournent en Israël et qu'il y a des arbres qui poussent. Mais ça, ça peut être expliqué de toutes sortes de façons. De façon agricole, et de façon économique, et de façon sociologique, etc. En fait, vous n'avez rien compris. Vous ne voyez pas que ces arbres-là, ça signifie que Dieu a décidé de ramener le peuple juif en Israël. Mais vous ne savez pas regarder des arbres. Vous regardez les arbres comme un agriculteur. Il faut regarder plus profondément. Alors, je vais vous faire un cours d'arbres. Alors, sachez-le, que si tout à coup, les vallons et les montagnes se repeuplent et les arbres commencent à donner leurs fruits, eh bien, il faut regarder ça avec un regard beaucoup plus profond, avec un regard divin. Je ne viens pas vous montrer des choses d'autre monde. Je viens vous montrer, vous amener un regard profond, un regard historiosophique divin sur cette réalité de tous les jours. Bien que je sache également parler de choses plus profondes. Mais le message prophétique, il nous est toujours transmis en langage que nous comprenons. Donc, Dieu nous ramène à cette terre et nous en prenons possession. Et nous, retour en Israël, construction de la terre, et prise de possession souveraine, ça veut dire création de l'État d'Israël, c'est la première étape. Retour en Israël, reconstruction du pays, et nous avons un État. Pause. Deuxième étape, verset 7. Venatan Hashem Elokech et kol ha'alot ha'ele al oyvecha. Dieu renverra toutes ses malédictions sur tes ennemis. Ah, il y a des ennemis. C'est embêtant. Il y a des ennemis. Enfin, viendra un jour où l'agneau vivra avec le loup et le tigre avec je ne sais plus quoi. Oui, mais en attendant. En attendant, il y a des ennemis. Il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas croire qu'on peut créer un État sans avoir de tels affrontements. Si l'on est ainsi, à la première étape, il y a encore des ennemis tout autour. C'est très embêtant. Enfin, c'est moins grave qu'autre chose. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit « Alors, vous êtes militariste ?» Une attaque. Toujours quand on est attaqué. Il ne faut pas se buter. Vous comprenez, quand j'ai étudié dans les mouvements de jeunesse, le judo, on m'a dit « Si l'ennemi se jette sur vous, il ne faut pas essayer de résister. Il faut l'aider à se jeter sur vous, puis bouger de côté, comme ça. Il s'écrase par terre de sa propre force. » Alors, il m'a dit « Vous êtes militariste ?» Je lui ai dit, très. Alors il s'est écrasé par terre. Et puis il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il s'attendait que je dise, mais non, mais non. Alors j'ai dit, parce que je préfère. Évidemment, c'est une blague, personne n'est militariste. On n'a jamais vu en Israël un soldat qui n'est pas prêt à renoncer à aller en Milouim. Je lui ai dit, on n'a pas besoin de vous pour les Milouim. Il a dit, je suis militariste. Ça n'existe pas. Il a du travail à faire à la maison. Mais enfin, j'ai dit, oui, je suis militariste. Il m'a dit, pourquoi? Parce que je préfère être militariste que de finir ma carrière en cendres. Il m'a dit, mais c'est de ça qu'il s'agit? J'ai dit, alors de quoi il s'agit? De quoi il s'agit au juste? Il s'agit de ne pas finir ma carrière en cendres, au four crématoire. C'est ça le problème. Ah, mais dit, bon. Donc, parfois, il n'y a pas le choix. Et puis, quand il y a des ennemis autour, bien que ça ne soit pas idéal, eh ben, on est obligé de les repousser. Évidemment, ce n'est pas idéal. L'idéal, c'est la paix, c'est l'amour entre les êtres. Mais ça, c'est... Comment dire? C'est le triclinium. Comment dire en français, triclinium? La chambre. Mais ça, c'est l'antichambre. Avant la chambre, il y a une antichambre. Et dans l'antichambre, on fait le contraire de ce qu'il y a, on fait dans la chambre. Donc, au début, on est obligé d'affronter des guerres. Il vaut mieux affronter des guerres que de finir sous terre. Mais viendra un deuxième stade où nous arriverons à répondre à nos ennemis. Mais ce n'est pas au départ. Il ne faut pas être, comment dire, troublé parce qu'il y a des ennemis qui nous entourent et que nous n'arrivons pas à les surmonter. Ce n'est pas notre travail actuellement. Notre travail actuellement n'est pas de faire la guerre. Notre travail, c'est de ramener le peuple juif en Israël, de construire le pays. Voilà. La guerre, on en fait le minimum du minimum. Des fois, ça nous coûte très cher d'avoir peur de faire la guerre. Mais on a raison. Parce que ce n'est pas de ça qu'on doit s'occuper actuellement. Et puis même si des fois, à cause de ça, nous avons des pertes graves, il faut continuer à s'occuper de ce premier stade. Et quand ça sera sur place, nous ne savons pas combien de temps ça mettra, si ça mettra 10 ans ou 100 ans. Mais lorsque le peuple juif sera revenu en Israël, et lorsque l'État sera construit puissamment à l'intérieur, on prend, étant donné qu'on en aura assez de faire la guerre, eh ben, on ira chez les ennemis qui nous entourent, et puis on les dira, une fois pour toutes, vous voulez arrêter de nous casser les pieds, non? Et ceux qui ne voudront pas arrêter, on les convaincra, de façon définitive, comme l'a fait le roi David, qui a convaincu, par des arguments compréhensibles, à l'interlocuteur, parce qu'il faut toujours parler avec les gens leur propre langage. Sinon, c'est très impoli. Donc, il leur a parlé leur langage, ce qui s'appelle parler un langage miroir. Il leur a renvoyé exactement la façon dont il parlait, tandis qu'il ne parlait pas avec des fleurs, mais qu'il parlait avec des canons. Alors, il leur a parlé avec des canons. Et puis, il a réglé ce problème. Mais c'est pas la première étape. D'abord, on doit construire le pays. Et après, Dieu renverra vers nos ennemis tous les malheurs qu'ils nous ont faits. Il y aura un renversement de situation. Et vient la troisième étape, verset 9, la bénédiction agricole, industrielle, etc. Aussi la bénédiction dans le giron de la femme, le peuple juif se multipliera. Ouais. Ça veut dire que dans les premiers stades, c'est pas comme ça. Premier stade, il y a problème. Il y a problème économique. Donc, voici les trois étapes. Tout d'abord, le retour en Eretz Israël, la construction du pays, la construction de l'État. Deuxième étape, la mise hors d'état de nuire, définitive, des ennemis qui nous entourent. Troisième étape, la réussite économique, la réussite démographique, la réussite agricole. Trois étapes. Bon, à toi, les lumières, comme chaque fois, c'est du thé goy, c'est du thé indien. Ça, c'est pas grave. Mais c'est de l'eau juive. Et maintenant, nous en arrivons aux étapes de la Teshuva. C'est plus compliqué. Il y a là effectivement quatre étapes. Eh bien, nous allons commencer par une remarque profonde qui se trouve dans le livre Rota Teshuva, du Rav Kook, les lueurs du repentir. Chapitre 17, alinéa 2. Que dans le verset 2, il est écrit « Veshavta ad Hashem ». Tu reviendras à Dieu. Et au verset 10, c'est le verset final qui t'achouve « El Hashem ». Tu reviendras vers Dieu. C'est pas la même chose. Le retour vers Dieu, c'est un retour infini. Parce qu'effectivement, on n'arrive jamais à Dieu. C'est une démarche sans fin. Mais le retour à Dieu, c'est un retour fini. C'est un retour restreint. Il y a un terme talmudique, ad, velo ad bichlal. Ce qui signifie en mathématiques, borne non incluse. Je reviens à Dieu, mais sans Dieu. Jusqu'à Dieu, Dieu non compris. Qu'est-ce que ça veut dire revenir jusqu'à Dieu, revenir à Dieu, Dieu non compris? Ça veut dire un divin sans Dieu. Ça veut dire, comme dit le Rav Kook, revenir à la terre d'Israël, c'est une terre de Dieu. Revenir à la langue, revenir à l'histoire, revenir à la culture, revenir à tout ce que vous voulez de juif, mais sans Dieu. C'est un judaïsme exorcisé. Un judaïsme sans Dieu. Mais évidemment, sans le savoir, celui qui revient à Eretz Israël, il revient à Dieu. Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Celui qui est sioniste, c'est un religieux qui s'ignore. Oui, mais c'est pas des choses qu'il faut ignorer. Ad velo ad bichlal. Nous sommes prêts à accepter, à assumer tout le patrimoine du peuple juif et à nous sacrifier pour lui, mais sans Dieu. Nous sommes prêts à accepter toutes ces données par un mouvement de l'intelligence, par un mouvement de la conscience nationale, mais pas par un mouvement religieux. Le religieux, c'est un mouvement de l'âme qui tourne vers Dieu. C'est une religion sans religion. J'ai une fois acheté du savon. Il y avait écrit « Sabonne, bli sabonne ». J'ai pas très bien compris, mais enfin... C'est du savon sans savon. Car de même, c'est une tchouva sans tchouva. C'est un Dieu sans Dieu. C'est la première démarche. C'est un Dieu sans Dieu. Ça veut dire que dans le conscient de la théorie, Dieu manque. Mais effectivement, dans le subconscient, il apparaît. Mais la tchouva... Et la chaîne, c'est une tchouva vers Dieu, une tchouva authentique. La traduction, dunkelus, en araméen, étant donné que je sais que vous avez des difficultés en hébreu, alors on va traduire en araméen. Alors, tchouva et la chaîne, te touve kodam Hashem. Ce qui signifie, tu reviendras devant Dieu. Alors que Tshuva ad Hashem, il est écrit où te trouve le Dachalta d'Hashem. Dachalta, c'est la peur. Il y a effectivement Tshuva me'ahava, Tshuva mi'ira. Tshuva par amour, Tshuva par crainte. La Tshuva par amour, dit notre maître Maïmonide dans son chapitre final sur les lois de la Tshuva. C'est la tchouva par amour du bien, parce que le bien est bien. La tchouva.